Religion du monde. Geneviève Delrue.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Après plusieurs mois d'attente, le pape François a fini par renouveler le 17 février dernier la Commission pontificale de protection des mineurs, une structure créée en 2014 chargée de la lutte contre la pédophilie au sein de l'Église, cela dans le sillage de la politique de la tolérance zéro mise en œuvre à la fin du pontificat de Benoît XVI. Cette structure s'est toutefois heurtée à l'inertie, voire à la mauvaise volonté de certains membres de la curie, à commencer par la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui gère directement les cas d'abus sexuels. Face à ces blocages, plusieurs membres de la commission, dont des anciens victimes de prêtres pédophiles, sont partis. Avec notre invité Stéphane Joulin, qui signe chez Desclés de Brouwer, combattre l'abus sexuel des enfants, qui abusent, pourquoi, comment soigner, nous allons parler de la lutte contre la délinquance sexuelle, bien au-delà de l'institution vaticane. Stéphane Joulin, bonjour.
Bonjour Geneviève.
Vous êtes prêtre, membre de la Société des missionnaires d'Afrique, autrement dit les Pères Blancs, et vous êtes psychothérapeute. Depuis 20 ans, vous travaillez sur ce sujet, vous avez même passé quelques années au Canada pour élargir votre champ d'analyse. Alors, la spécificité, les spécificités de votre livre, il concerne d'abord les auteurs d'abus sexuels. C'est une première, non ?
Tout à fait, et en particulier dans l'approche qui est la mienne, d'avoir une approche intégrale de la personne, pas seulement d'un point de vue clinique, mais une clinique qui intègre la dimension spirituelle dans le traitement aussi. Oui, c'est un ouvrage unique sur le sujet. Oui.
Absolument, donc effectivement, cette intégration, j'allais dire, de la dimension spirituelle, c'est aussi un autre aspect de votre livre tout à fait nouveau. Pas très facile d'écrire sur justement les auteurs.
Non, parce que ce sont des personnes dont on ne voudrait pas entendre parler, qu'on qualifie très rapidement de l'étiquette de monstre, et quand on a dit ça, on a tout dit. Où on va dire les pédos, les pédophiles, les monstres, les pervers, mais d'essayer de dire, derrière ça, il y a des hommes qui ont commis des actes qui sont monstrueux, qui sont pervers, et qu'il faut soigner, non pas seulement pour soigner, mais pour aussi prévenir les abus et la récidive, et dans la mesure du possible, prévenir le premier passage à l'acte quand on a un accès à ces personnes-là. Donc, c'est l'approche du livre, elle s'inscrit à la fois dans ce qu'on appelle la victim first, c'est-à-dire l'approche première pour les victimes, parce que la visée, c'est bien de prévenir les abus sexuels. C'est bien la visée, mais aussi dans le traitement de ces hommes et ces femmes qui souvent vivent cette déviance par la souffrance. Et il faut pouvoir l'entendre aussi.
Je m'attendais à un livre sur les prêtres pédophiles. Et vous avez largement voulu aller au-delà.
Oui, parce que ça correspond aussi à mon expérience professionnelle et pastorale. J'ai travaillé avec de nombreux hommes et femmes qui ont commis des abus sexuels sur les enfants, et de différents horizons, aussi bien des plombiers, des garagistes, des chauffeurs, des universitaires, des avocats, mais aussi des prêtres et des ministres de culte. Donc, j'ai une partie du livre qui se concerne un peu plus sur ces spécificités catholique, mais je pense que c'est pour aider la société dans son ensemble à avancer sur cette confrontation à la délinquance sexuelle, parce que la réponse de la société, c'est ça qui va être déterminant dans la réduction de l'abus sexuel sur les mineurs.
Et dans l'Église, la réponse aussi du Vatican va être déterminante.
Tout à fait.
On parlait de cette inertie tout à l'heure.
Oui. Alors c'est là où on voit bien les résistances institutionnelles, mais les résistances institutionnelles, on les retrouve dans toutes les institutions. Quand on essaye de réformer par exemple l'éducation nationale, on voit bien la difficulté que ça prend. Alors imaginez qu'est-ce que ça demande de réformer une institution qui représente 1 250 000 personnes. C'est une très vieille institution, le Vatican, la Curie, ça demande beaucoup d'efforts pour faire bouger les choses. On voit bien d'ailleurs les difficultés du pape François à faire avancer sur cette question-là. Mais voilà, et c'est cette difficulté-là, on l'a aussi dans la conférence des évêques en France, on l'a dans d'autres lieux.
Alors Père Stéphane Joulin, moi j'aimerais d'abord commencer avec vous sur les mots. Le mot abus sexuel, c'est quand même choquant, parce qu'un abus, ça veut dire que déjà, on peut commencer. Est-ce qu'il ne faudrait pas trouver une autre expression ?
Possiblement, mais abuser de quelque chose, c'est vraiment aller au-delà de ce qu'est l'usage normal de la chose. Et on voit bien ce qu'il y en est, c'est un abus de la relation d'une personne à une autre, en prenant la sexualité comme quelque chose de beaucoup plus large que la génitalité simplement. Parce que dans l'abus sexuel, on abuse bien sûr d'un point de vue génital, mais on a abusé aussi le lien, la relation qu'on a à l'enfant ou autre. Et Sandor Ferenczi était un de ceux qui avait bien mis ça en avant dans
donc
la confusion.
Un Hongrois.
Un Hongrois, un psychanalyste hongrois, et qui a été un des disciples de Freud, et qui a bien mis dans un de ses textes qui s'appelle La confusion des langues, il a bien mis en évidence une des difficultés qui est que quand l'enfant va chercher de la tendresse, de l'affection, la personne qui souffre d'une pathologie, qu'elle soit de pédophilie ou autre, peut comprendre ça comme une demande de sexualité. Et il dit, voilà, on a deux registres qui sont différents, et alors l'auteur de l'abus va abuser la relation. Il va aller au-delà de ce que c'est que l'usage commun de la relation à l'enfant, et il va aller bien au-delà de la frontière de l'intimité de l'autre. Alors en cela, l'abus est un mot qui est correct. Est-ce qu'il a une charge émotive suffisante pour dire l'horreur de ce que ça représente? Je crois que c'est un mot juste, mais qui peut-être n'a pas assez de force sur le sujet. Ouais.
Alors de même, continuons avec les mots. Pédophile ou délinquant sexuel, quel est le meilleur terme?
Alors moi, je pense que bon, ça dépend dans quel niveau on va se placer. On parle de la délinquance sexuelle parce que tous ceux qui abusent sexuellement d'enfants ne sont pas des pédophiles. Et tous les pédophiles ne vont pas abuser nécessairement d'enfants. Ça, c'est une différence qui est pas toujours facile à comprendre.
Mais vous voulez dire qu'un pédophile ne passe pas forcément à l'acte, c'est
voilà,
ce que vous
exactement.
Voulez dire.
Hein, on a toute une partie des pédophiles qui sont ce qu'on appelle des pédophiles abstinents. C'est-à-dire, c'est des hommes ou des femmes qui ont une attirance exclusive envers les enfants, mais qui savent que d'une, c'est très mauvais pour les enfants, ou deux, que la société ne tolère pas ce genre de choses. Et donc, qui vont frustrer, réfréner ce désir en eux de relations sexuelles avec les enfants. Et puis, y en a une partie qui, elle, va passer à l'acte et devient abuseur. Okay, donc, on a d'un côté la pédophilie qui est un diagnostic clinique, okay, qui est reconnu par ce qu'on appelle le DSM-5, bon, qui est la bible des psychiatres en santé mentale, surtout dans le milieu anglo-saxon, qui définit donc la pédophilie comme un trouble de l'objectivation sexuelle, qui fait qu'une personne a une attirance exclusive pour les jeunes de 0 à 13 ans, okay. Et il faut que cette attirance soit aussi zone de souffrance pour la personne et tout ça. Alors là, on a des pédophiles, vraiment. Mais beaucoup de gens qui passent à l'acte sur les enfants, qui vont abuser, qui deviennent des délinquants sexuels, dans le sens qu'ils commettent un délit ou un crime sexuel sur un mineur, ne sont pas des pédophiles stricto sensu. Ça peut être des gens qui sont ce qu'on appelait dans le temps des sociopathes ou des psychopathes, hein, ce qu'aujourd'hui on appelle un trouble antisocial, du comportement antisocial, voilà. Et deuxièmement, ça peut être quelqu'un qui souffre d'une hypersexualité, qui a du mal à contrôler sa sexualité, pour lui tout passe, tout fait. Et puis ça peut être d'autres personnes qui ont un passage régressif à un moment de leur existence, soit à l'occasion d'une dépression, d'une perte d'emploi, ça va mal dans leur vie, ils vont se désinhiber par de l'alcool, de la drogue ou autre chose, et puis ils vont passer à l'acte sur un enfant à ce moment-là. Donc on voit bien qu'il y a des étiologies différentes, des origines différentes au comportement abusif. Mais le fait d'avoir un fantasme sur le corps d'un enfant, c'est pas un délit criminel. C'est un problème de santé mentale, mais c'est pas un délit criminel. Le délit criminel, c'est quand on passe à l'acte. Et c'est l'acte qui est criminalisable, et c'est pour ça qu'on parle de délinquance sexuelle, parce que c'est vraiment ça sur lequel il faut lutter. La pédophilie, il faut lutter comme problématique de santé mentale, comme on s'occuperait d'autres problématiques.
Stéphane Joulin, vous avez donc étudié les lieux où se déroulent effectivement les abus sexuels. Et le premier lieu pour vous, c'est la famille.
Tout à fait.
Que vous décrivez comme le lieu le plus à risque. C'est terrible.
C'est-à-dire que la famille, c'est à la fois ce lieu merveilleux où on peut grandir, où on peut devenir un homme ou une femme en plein épanouissement et autres. Mais quand il est dysfonctionnel, c'est le lieu le plus terrible. Le plus dangereux, parce que c'est le lieu de la première proximité et de l'apprentissage de la relation. C'est la famille. Alors, quand la famille est dysfonctionnelle, ça devient un endroit très dangereux. Et c'est vrai que la plupart des abus sexuels qui sont commis sur les mineurs sont commis dans le cadre familial. Alors soit sous forme de l'inceste, c'est-à-dire quand il y a une relation directe de sang ou de responsabilité, c'est-à-dire un père, une mère, un frère, une sœur, un cousin, le grand-père, l'oncle ou le beau-père aussi. C'est souvent les cas dans les familles recomposées. Il y a beaucoup de problèmes. Le beau-père qui n'a pas le lien de sang directement avec les enfants de sa compagne. Et puis après, ça peut être tous ceux qui s'approchent du milieu familial et qui font partie de l'univers de l'enfant et de sa croissance. Alors ça peut être le curé qui vient visiter, ça peut être l'imam, ça peut être le rabbin, ça peut être
l'oncle,
ça peut être tout un tas de personnes qui gravitent dans l'univers de la famille ou dans le quartier. Dans le quartier, ça peut être le voisin très proche et autres, celui à qui on va garder, on confie l'enfant, garde-moi le gamin, je vais faire des courses. Ok, bon voilà. Alors c'est tout cet univers-là, c'est l'univers plus proche de l'enfant, et c'est compréhensible que ce soit là qu'il y ait des risques, parce que c'est bien quand on peut approcher les enfants que ces personnes-là vont abuser.
Est-ce que vous pensez que l'inceste est encore un tabou, hein? Parler de l'inceste aujourd'hui, est-ce que ce tabou va être levé?
Je pense qu'il n'est pas encore levé. Ça prend du temps. Ça prend du temps à des personnes parce que les personnes ont du mal à réconcilier dans leur tête que celui ou celle qui est censé être celui qui lui donne de l'affection, qui prend soin de lui, a fait ses gestes sur lui, sur son corps. Elles sont coincées entre une loyauté, une affection, un amour pour le père incestueux, par exemple, autre. C'est souvent les pères, c'est les victimes l'appellent papa encore, qui est un terme très très affectif, très affectueux. Mais c'est à la fois le papa qu'elle désire aimer et puis qui peut être aimant à certains moments. Mais à d'autres moments, d'un seul coup, c'est plus du tout le même homme. Et ça, pour les victimes, c'est très difficile à réconcilier. Donc, il y a une espèce d'interdit. Puis alors, plus l'emprise a été forte, plus l'interdit de la parole a été posé par l'auteur de l'abus, plus il va être difficile à une victime d'en parler. Donc, c'est pas quelque chose qu'on dit comme ça facilement en société. Ah ben, moi, j'ai été incesté par mon père, mon oncle. Pas quelque chose qu'on va dire à l'occasion d'une conversation de société.
Père Stéphane Joulin, en parlant, en évoquant le père, ça me fait penser au père, au prêtre. Et vous dites que ça joue, justement, dans la relation. Là, je parle donc, j'évoque la pédophilie dans l'Église, que le mot prêtre, l'appellation prêtre, va jouer dans le rapport entre l'enfant et le prêtre qui va commettre sur lui un acte sexuel.
Ben, tout à fait, parce que dans l'univers de l'enfant, dans son imaginaire, le prêtre, c'est celui qui est le messager divin, c'est celui qui représente Dieu, c'est celui qui a des pouvoirs quasiment un peu magiques qu'on comprend pas, parce que l'enfant, il a pas fait de théologie, il sait pas faire la différence entre les choses, mais pour lui, voilà, ah, il fait Jésus sur l'autel, il apporte Jésus, il pardonne les péchés, enfin, voilà. Le prêtre, ça devient un être un peu magique, qui a des pouvoirs particuliers, et c'est tellement dans l'inconscient de l'enfant, mais ça existe aussi dans l'inconscient de la société. Moi, je me rappelle avoir vu cette fameuse publicité adopteuncuré.com, où j'étais tombé des nues, quand je vois d'un seul coup adopter un produit 100% divin. Non, mais j'ai dit, on est dans quel imaginaire, quoi? On est dans un imaginaire très régressé, très enfantin, alors que le prêtre, c'est avant tout un homme. Okay. Donc, l'image du prêtre va faire beaucoup, parce que si c'est Dieu qu'il représente, qui je suis comme enfant pour résister à Dieu? Qui va croire ce que je vais dire quand cet homme-là qui représente Dieu dit que c'est pas arrivé? Et ça a été une des grosses difficultés dans les familles catholiques, mais pas seulement dans les familles catholiques, dans les familles où les enfants ont été abusés par un ministre d'un culte, quel qu'il soit, surtout quand le ministre du culte est proche de la famille haute, c'est que l'enfant sait que les parents vont pas le croire. De la place qu'a se prennent dans la famille. Donc ils vont pas essayer de dire, ou ils vont tenter un peu, puis ils vont très vite se faire rembarrer, quoi. On voyait ça très bien expliqué l'autre jour, il y a eu un programme sur France 3 qui est paru, où une victime témoignait, elle a été abusée par trois prêtres, et quand elle a osé parler de ça à sa grand-mère, elle s'est pris une raclée, elle s'est fait envoyer au lit. Bon, voilà. Donc, la place des prêtres est tellement importante dans les communautés chrétiennes que, pour l'enfant, il y a très peu de possibilités de sortir de ça. On le voit aussi dans le film Spotlight, par exemple, vous voyez très bien cet homme qui pleure, qui raconte son histoire et qui dit, mais en fin de compte, quand le prêtre entrait dans une maison d'une famille pauvre, c'est un peu comme si Dieu venait nous visiter, quoi. Donc voilà. Alors ça, pour un enfant, c'est difficile.
Alors, ça concerne toutes les religions. Vous parlez dans le livre, c'était en 2017, dans le milieu ultra-orthodoxe de Jérusalem, il y a eu un scandale.
Oui, il y a eu plusieurs rabbins qui ont été arrêtés, des ultra-orthodoxes qui ont été arrêtés pour des actes graves. Ça a été aussi très présent aux États-Unis dans la communauté ultra-orthodoxe. Très bon documentaire qui avait été fait qui s'appelait Standing Silent et qui était fait un petit peu à la manière de Spotlight et qui racontait l'histoire d'un journaliste qui essayait de faire sortir la vérité. Mais on voit bien les résistances systémiques. Elles sont les mêmes dans tous les milieux.
Protéger l'institution,
protéger le système, protéger le délinquant, celui qui représente l'autorité.
Également chez les Mormons, les témoins de Jéhovah.
Oui, tout à fait.
Et en Afrique, ça vous inquiète aussi?
Oui.
L'emprise de certaines églises évangéliques à la limite des sectes.
Oui, ce qu'on appelle les églises du réveil, donc, qui sont très présentes en Afrique, où on a des pasteurs qui n'hésitent pas à utiliser leur position pour abuser sexuellement de gens très très jeunes, sous des prétextes les plus fallacieux possibles de les guérir de leur comportement, de les exorciser du démon qui est en eux et autres. Ils en profitent pour toucher et puis abuser de leurs victimes.
Ce qui vous fait dire d'ailleurs, Stéphane Joulin, qu'il serait important que la théologie soit davantage diffusée. C'est-à-dire que ça enlèverait une forme de pouvoir, là je pense à l'Église catholique, ça enlèverait une forme de pouvoir aux prêtres.
Oui, alors ça enlèverait une forme de pouvoir aux prêtres, et puis ça permettrait à l'Église, dans son ensemble, de se concevoir et de se comprendre autrement qu'à travers des lunettes cléricales. Ça, c'est un gros problème. Et moi, ce que je propose dans le livre, et ce que d'autres ont proposé avec moi, des victimes en particulier, c'est que la théologie sur cette souffrance, sur le drame de l'abus et autres, doit se réfléchir à partir de l'expérience des victimes, mais avec les victimes, et pas pour elles. Parce que ça, c'est le gros risque et c'est le péché de l'Église catholique, c'est de vouloir faire pour les autres, ok? Alors, on avait vu ça avec le fameux fascicule « Lutter contre la pédophilie » qu'avait publié l'épiscopat français. On vous fait un beau livre, on vous le met sur une étagère et puis on dit « Voilà, on a fait notre job, là ». Mais c'est pas ça du tout, là, la solution. Ce qu'il faut, c'est accueillir, écouter la souffrance des victimes et chercher avec elles. Parce qu'elles vont vous dire « Mais où était Dieu quand j'étais abusé ?» Moi, j'ai pas de réponse
à ça. C'est le syndrome de la post-Shoah, ça.
Bien sûr, exactement.
Hein,
on a eu la même chose après tous les survivants de la Shoah. Et la tentation de beaucoup de théologiens, de prêtres et autres, c'est de vouloir sauver Dieu dans l'affaire. On dit, non, il faut à tout prix que je sauve Dieu. Alors, on va garder.
Dieu souffre quand il voit ça, etc.
Il est sur la croix, il souffre avec toi et autres et tout ça, il était là. Très bien, mais ça sauve qui? Ça sauve Dieu. Mais Dieu a pas besoin de sauver, il est assez grand pour se sauver tout seul, là. Ok? Ce qu'il a besoin de faire, c'est de se révéler à cette personne qui a été victimisée dans l'aujourd'hui de sa souffrance. Pas d'aller chercher midi à 14h où il était quand ça s'est passé. Est-ce qu'il était parti prendre un café avec ses copains? Je sais pas, mais voilà. En tout cas, il était pas là. Ok? Et, on a beau essayer de vouloir dire tout ce qu'on veut, il y a une absence de Dieu dont on ne peut pas faire l'impasse. Moi, je crois qu'il faut l'accueillir, ça. Et dire, ben oui, on est là, maintenant à côté de toi, avec toi. Moi, je suis là, là. Et comment on va chercher un peu des réponses ensemble? Et ça, c'est très rassurant pour les victimes, parce qu'elles voient qu'en fin de compte, leur questionnement, c'est pas ridicule. Elles ont peur, des fois, elles disent, mais je pense pas comme tout le monde, je suis pas bien, et tout ça. Non, non, elles ont le droit de penser ça.
Là, quand vous parlez de ces victimes, ce sont des victimes qui avaient la foi, on est d'accord?
Oui. Mais même des gens qui n'ont pas forcément la foi, mais qui se posent des questions. On a des gens qui sont agnostiques, par exemple, qui n'ont pas de réponse définitive sur le domaine de la foi, mais qui vont vous dire, mais grâce à Dieu, quand même, voilà. Bon, bref. Donc, on sent bien que ça fait partie de leur réflexion. Mais en particulier, des gens qui ont la foi, et puis qui prient, qui priaient beaucoup. Je me rappelle toujours une auteure allemande qui avait fait un très beau témoignage. Elle racontait comment elle était abusée par son père. Et elle racontait son abus, et elle disait, mon père était en train de me violer sur la machine à laver dans la salle de bain. Et j'ai tellement crié après Dieu. Et Dieu n'est pas venu l'arrêter. Oui, mais moi je vais pas aller lui dire, bah oui, mais Dieu, il était là sur la croix avec toi, il souffrait, ta souffrance était prise, mais c'est du baratin, ça. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens face à cette souffrance. Alors, ce qu'il faut avoir, c'est pouvoir s'asseoir à côté de la personne et dire, bah écoute, on va lui demander ensemble à Dieu, là. Où étais-tu, là? On va lui poser la question, là. Puis on va espérer une réponse, là, sans garantie qu'elle soit là. Thank you.
écoutez Religion du Monde. Notre invité est Stéphane Joulin pour son livre « Combattre l'abus sexuel des enfants. Qui abuse, pourquoi, comment soigner ?» publié chez Decker de Brouwer. Nous évoquions Dieu il y a quelques instants, Stéphane Joulin. Les prêtres, certains prêtres, évoquent Dieu aussi pour justifier leur acte, leur passage à l'acte en disant bah, « Dieu, il était d'accord ». Comment peut-on sortir ça quand on est prêtre ? Faut vraiment être malade ou pas ?
Ah oui, c'est ce qu'on appelle les distorsions cognitives, c'est-à-dire que le prêtre sait profondément que ce qu'il a fait est mal. Okay ? Il le sait. Et donc, pour essayer de continuer à vivre avec...
Il bidouille.
Il va se bidouiller un discours qui va lui permettre soit de justifier, soit de minimiser ou de rationaliser son comportement. Alors, il y a deux bidouillages possibles. Il y a un premier bidouillage où on se développe dans une vision du monde qui peut concevoir un passage à l'acte abusif sur un enfant. Alors on veut dire le monde est dangereux, les enfants sont des êtres sexués qui ont droit à une sexualité et autres et tout ça. Donc là on est sur une vision du monde dans laquelle on essaye de faire croire aux gens que finalement, les enfants ont un désir sexuel comme d'autres, et puis que, il y aurait quelque chose de quasi naturel à ça. Et puis il y a alors ce qu'on appelle les distorsions post hoc, c'est-à-dire après l'abus, qui servent soit à maintenir un comportement abusé, soit à le justifier. Et alors là, il y a toute une liste qui a été faite, mais tout est possible. Et quand on prend par exemple les ministres du culte, que ce soit des prêtres ou d'autres, une chose qu'ils vont dire par exemple, c'est Dieu n'a pas pu m'arrêter, alors qui je suis pour m'arrêter moi-même ? C'est-à-dire c'est cette incontrôlabilité de la pulsion pour eux. Ils vont dire moi je peux pas contrôler mes pulsions, puis Dieu de toute façon non plus il peut pas les contrôler, donc qui je suis pour les contrôler, ok? Une autre chose qu'ils peuvent dire par exemple quand c'est des prêtres, Dieu savait très bien que j'étais comme ça et il a permis que je sois ordonné prêtre, ok? Ok, mais c'est pas du tout ça là.
Okay. C'est vraiment du gros bidouillage.
Voilà, c'est du gros bidouillage et on sent profondément. Et comment on reconnaît une distorsion cognitive, c'est que quand on l'entend, on sent qu'il y a quelque chose qui va pas, qui est pas à la bonne place là. Ça peut être très structuré, ça peut être très subtil parfois. C'est pour ça que le travail clinique auprès de cette population-là est difficile.
Ça ne s'improvise pas.
Non. Ça, il faut se former. Et puis en général, il faut mieux travailler à deux thérapeutes ensemble parce que des fois, il y a des avions qui passent, on les a pas vus passer. Donc l'autre les verra passer à ce moment-là. Donc c'est important. Mais ces distorsions-là cognitives sont là parce que le délinquant sait que ce qu'il a fait n'est pas acceptable. Et donc, il se construit un discours qu'il espère. Par exemple, on en a qui se réfugiaient dans une vision idyllique d'une période grecque antique où c'était ok, toléré d'avoir des relations sexuelles avec les enfants. Ok, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et puis, il y a très longtemps, on n'est plus dans ces sociétés-là. Ok. Alors, le remède face à ces distorsions cognitives, c'est de rapporter ce qui est... Par exemple, dans les cas des prêtres, quand ils utilisent la parole biblique ou autre pour manipuler, c'est de ramener ce que dit le texte. Par exemple, un prêtre qui va dire « Ah oui, mais de toute façon, la justice divine est aveugle. J'ai fait un petit peu de mal une fois, mais par rapport à tout le bien que j'ai fait avant... »
Ça compense.
Il dit « Regarde le livre du Deutéronome. Dieu dit « J'ai mis devant toi le bien et le mal, choisis le bien et tu vivras. » Donc, à partir du moment où tu as choisi le mal, tu as choisi la direction de la mort.
Oui, d'ailleurs, plus tard, nous parlerons de Paul Ricoeur et de ce choix, effectivement, passer à l'acte. Les autres lieux d'abus sexuels ou de délinquance sexuelle, eh bien, il y a bien sûr toutes les institutions, sportives, laïques, etc. Et le pire du pire, ce que vous soulignez, c'est quand des enfants sont placés dans des familles et qu'ils sont abusés.
Tout à fait. Bon, on l'a bien vu dans l'actualité récente, ça éclate dans tous les lieux institutionnels, ça a été le sport, les centres de vacances, les écoles et autres, et ainsi de suite. Tous les lieux qui ont affaire avec les enfants sont potentiellement des lieux où il peut y avoir un risque s'il y a des individus qui ont ce type d'appétence. Mais c'est vrai que pour moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'absolument terrifique quand on a des enfants qui sont placés, qui vivent déjà une séparation d'un milieu familial perturbé, qui ont eu la souffrance et autres et tout ça. Et puis, qui sont mis dans une famille où là on va abuser d'eux. Hier, je regardais une scène dans la rue à Paris qui m'a assez choqué. Une dame qui criait au téléphone en disant tu vas prendre ton fils et tout ça. Bon, pour vraiment qui vivait un drame. Et il y avait le petit gamin qui était là, qui devait avoir 4 ans, qui était assis sur les marches, complètement prostré et tout ça. Et je me faisais la réflexion, je dis voilà, ce gamin probablement il est au cœur d'une situation familiale bousculée et tout ça, et probablement qu'il va finir à l'aide sociale à l'enfance d'une manière ou d'une autre, parce que si ça se résout pas. Puis je dis quel risque il va y avoir pour ce gamin là. Et ça vous fend le cœur hein, quand vous voyez des situations comme ça. Pour moi, c'est absolument terrible. Et les victimes en ont témoigné. Des gens qui ont été abusés dans un système qui est dit être un système de protection de l'enfance. La vocation de ce système-là, c'est la protection de l'enfance. Et beaucoup en ont bénéficié de cette protection. Mais il peut arriver aussi qu'il y a des abus. Et là, c'est pour moi vraiment le summum de l'abus. Là.
Alors, impossible selon vous, Stéphane Joulin, de dissocier toute cette question des abus sexuels sur les enfants du contexte culturel. Or, vous dites qu'aujourd'hui, nos sociétés, effectivement, versent dans l'hypersexualité. L'hypersexualisation.
Tout à fait.
Alors, vous pensez à quoi? À Internet, à la pornographie, à la publicité, à quoi?
Ah ben, tout un tas de choses aujourd'hui qui font que nous sommes dans une situation d'hypersexualisation et de sexualisation du corps de l'enfant. Vous avez tout un tas de choses qu'on regarde la mode, qu'on regarde, enfin, qui est une marque qui décide de faire des sous-vêtements féminins pour les petites filles avec des bas, des porte-jartelles et des choses comme ça. Les petites Lolitas. Donc, cette hypersexualisation du corps de l'enfant, là, qui ne fait qu'augmenter les fantasmes chez ceux qui ont, enfin. Alors, une des choses qui est en train de transformer de manière dramatique notre société et notre vivre ensemble, c'est la pornographie. Et la pornographie actuelle, on ne parle
sujet
pas...
Sujet tabou d'ailleurs, on n'en parle pas beaucoup.
Oui,
hein.
Oui, mais on est bien loin de ce qu'était Emmanuel, Histoire d'eau, ou des choses comme ça, l'érotisme des années 80, 90 et autres, tout ça. On est bien loin de ça. Aujourd'hui, ce sont des trous et des pénis, ok? Et puis des gros plans sur ça, et c'est de plus en plus violent. Et alors, ce qui est le risque, c'est que pour un homme normal, constitué, qui va regarder de la pornographie, il n'y a pas de risque, et la recherche le dit clairement, que la pornographie l'amène à abuser d'un enfant. Mais pour quelqu'un qui a une proportion à ça, et moi j'ai eu des clients, par exemple, qui consommaient de la pornographie juvénile et qui me disaient, mais tu sais, moi, bon, c'est bien beau la masturbation, la pornographie, mais l'autre jour, je me demandais si j'allais pas prendre ma voiture et aller choper un gamin dans la rue, quoi. Bon, voilà. Alors, on voit bien que ça peut amener à ça chez des gens, chez des hommes qui ont cette tendance-là. Mais pour moi, le danger le plus grand auquel on a affaire dans la société, c'est l'augmentation des mineurs intrusifs aujourd'hui.
Qu'est-ce que vous appelez
intrusif ? C'est-à-dire, ce sont des jeunes mineurs qui abusent d'enfants. Alors, on les appelle mineurs intrusifs parce qu'on va pas les qualifier d'abuseurs ou de tout de suite parce que, bon, ils sont encore dans la minorité. On imagine qu'on peut faire quelque chose avec eux. Mais voilà, on a des gamins qui ont 15 ans et qui veulent reproduire avec des gamins plus jeunes sur lesquels ils ont contrôle, 8, 9, 10 ans, des choses qu'ils ont vues sur Internet. Moi, je dis, écoutez, j'étais en Afrique encore à Abidjan il y a pas tellement longtemps ou au Congo. Quand on voit qu'il y a des gamins qui, à l'âge de 6 ans, sont déjà exposés à la pornographie.
Dans les cours de récréation.
Dans les cours de récréation. Il y a une école. Il y a les sœurs m'ont dit, ils ont chopé un gamin. Il était en grande section de maternelle. Avec des DVD porno dans son sac. Et puis, bon, bah, il faut savoir qu'à l'Afrique, avec tous ces téléphones portables et autres, maintenant, la pornographie est accessible partout sur Internet, sur le téléphone. Voilà, on a des gamins qui, à la cour de récréation, sont en train de regarder ce genre de choses. Et ça modifie tellement les comportements que ça modifie l'image du corps chez les jeunes et tout ça. Dans une émission de radio, une fois au Canada, il y avait une jeune fille de 12 ans qui téléphonait c'était un peu comme Dr Love sur Energy ou des choses comme ça, et qui lui disait, oui, alors écoutez, je voudrais vous poser une question, j'ai mon copain qui voudrait uriner sur moi, est-ce que je dois accepter ou pas ou autre. Les pratiques qui sont... qui sont pour des adultes déjà limites, là, que voilà. Et une gamine de 12 ans qui pose ce genre de questions.
Oui, donc ça veut dire qu'elle l'a vu sur...
Mais elle l'a vu, son copain l'a vu, il veut essayer ça avec elle, ok. Et donc, ils ont une image du corps aussi qui se développe. On sait à quel point pour les adolescents, l'image du corps est problématique. Alors, quand ils sont exposés, pour les garçons, à des bêtes de concours avec des pénis de 30 cm, et pour les jeunes filles, des femmes qui ont des grosses poitrines, des grosses fesses et tout ça, et puis qu'elles regardent devant le miroir qu'est-ce qu'il en est, elles voient que c'est pas du tout ça, là. Et alors, c'est terrible. On commence à avoir des jeunes qui commencent à parler de chirurgie esthétique, se faire augmenter la taille des fesses, se faire augmenter la taille des seins à 14, 15, 16 ans. Alors qu'elles sont en pleine croissance. Mais c'est fou, quoi. Alors, on est en train de se préparer une société, là, qui va être ultra problématique. Et moi, j'étais très inquiet au Canada quand on voyait ces gamins. J'en avais un en particulier. Bon, c'était un jeune adulte, il avait 19 ans, mais il avait déjà une longue carrière derrière lui d'abus sexuels. Je dis, mais qu'est-ce que ça va faire, ça? Et on voyait bien la place qu'a eu la pornographie dans sa vie et sa confrontation. Il a eu accès à 9 ans à la pornographie pour la première fois et ainsi de suite. Donc là, on est face à une place de la sexualité dans la société qui est une place sans pudeur. Il y a des tabous, mais sans pudeur. Et ça, c'est aussi très, très inquiétant parce que on sort de la sphère privée, la sexualité, on la met à la vue de tout le monde.
Sur Facebook.
Sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat, sur tout ce que vous voulez, là. Et alors, par exemple, un des problèmes qui est en forte croissance, c'est les gamins qui se font arrêter pour production de matériel pornographique. Pourquoi ? Parce qu'un gamin de 16 ans, il a demandé à sa petite copine de 15 ans ou 14 ans de faire une photo d'elle en petite tenue, et puis il l'a balancée sur sa page Snapchat ou Instagram et autres. Il se fait arrêter par la police pour production de matériel pornographique, parce que la gamine, elle a moins de 18 ans dans certains pays, donc c'est un délit. Okay ? Et on a des gamins qui... C'est une bêtise qu'ils ont fait, hein ? Voilà. Mais ils sont confrontés à ces problématiques. Ils ont plus les repères qui leur permet de voir que, c'est pas, il y a des gamins qui se sont fait choper, qui sont passés devant les tribunaux au Canada parce que ils avaient demandé à leur petite copine d'envoyer des photos d'elle à moitié nue, mais derrière il y avait un réseau de pédophiles qui leur demandait de faire ça, mais ils s'en rendaient pas compte, ils étaient sur des forums, des chats, sur des jeux vidéo et autres et tout ça. Voilà ce que la société est en train de produire, et ça, il faut qu'on en prenne acte et il faut qu'on protège les gamins de tout ça là.
Vous prévenez les parents, vous les avertissez, père Stéphane Joulin, ne mettez pas les photos de vos enfants sur Internet.
Voilà. On ne sait pas qui c'est qui va regarder. Alors on dit tout ça, mais moi je connais tous ceux qui sont dans ma liste d'amis et autres et tout ça. Oui, mais on ne sait pas à qui on va reproduire ou qui va revoir ces photos, où est-ce qu'elles vont atterrir. Et puis si vous allez sur Google, vous tapez enfants et autres, maillots de bain ou autres et tout ça, vous en avez toute une liste qui va sortir de photos d'enfants qui sont des photos bucoliques, de famille, à la plage et autres, tout ça. Mais voilà, pour le pédophile, lui, il va utiliser ça. Et alors, moi,
parce que lui, il a une stratégie.
Mais
c'est
oui,
ce que
lui,
vous
il a une stratégie.
Oui.
Et puis, lui, il va utiliser ça pour se satisfaire. Alors, en tant que parent, est-ce que je suis conscient, quand je poste une photo sur Internet, que cette photo, elle peut être utilisée par un pédophile pour se masturber?
Mais quand je dis, il va utiliser cette photo, c'est qu'il y a des pédophiles qui font tout un travail d'approche.
Alors
c'est ça,
hein, ça c'est autre
c'est
chose.
Autre chose.
Ça, ce sont ceux qui vont ce qu'on appelle faire du grooming, et puis qui vont collecter des informations sur les enfants pour pouvoir savoir où est-ce qu'ils vont, d'où quelle école ils sont, à quel moment ils partent de l'école, est-ce qu'ils sont seuls à la maison quand ils arrivent et autres, et ils vont collecter de l'information comme ça. Ils se font passer pour un autre jeune. Ils disent, ah, tu vas à quel lycée, tu vas à quelle école et tout ça. Ah, moi aussi. Ah bon, ils t'habitent loin de l'école, au bon non, 10 minutes à pied et autres, bon, et c'est toi, et tu rentres, ou ta mère vient te chercher et autres, ainsi de suite. Et voilà, la conversation s'installe banalement et autres et tout ça. Mais le pédophile, pendant ce temps-là, il coche des boîtes, là. Hein. Il dit, bon, voilà, alors il met tant de temps pour rentrer, telle chose et autres. Et elle prépare, il peut préparer à ce moment-là une attaque sur l'enfant.
Religion du monde. Geneviève Delru.
Stéphane Joulin, on va aborder la dernière partie de notre entretien et de votre livre. La question spirituelle. Alors, pour vous, un vrai soin, puisqu'il s'agit en fait de soigner, pour prévenir la récidive, un vrai soin doit passer par une approche spirituelle. Bon alors, est-ce qu'il n'y a pas quand même une confusion hein, des genres vous êtes prêtre, psychothérapeute, une confusion des genres entre les deux, entre vos deux casquettes, si je puis dire.
Non, je sais, ça, dans l'univers français, c'est un petit peu bizarre, on va dire. Bon, on a un univers français qui est très marqué par la psychanalyse. Alors, il n'y a pas de confusion entre le divan du psychanalyste et le confessionnal du prêtre. Ok, bon. Cela étant dit, moi, je viens d'un univers conceptuel qui est différent, qui est le monde anglo-saxon au niveau de ma formation. Ou alors, ils sont complètement décomplexés. C'est par rapport à ça, il n'y a pas de problème. On conçoit que la personne est une personne intégrale. Okay
comme, Platon, comme Platon
oui,
dit. Vous citez Platon hein,
oui,
au début
oui,
de ce chapitre. Vous
voilà.
Dites que voilà, il était très moderne, Platon, en disant
mais
les médecins séparent le corps, le corps et de l'esprit, et c'est une très très grosse erreur.
Bien sûr, tout à fait. Et on s'en rend bien compte aujourd'hui. Je pense que la société n'est pas idiote là-dessus, qu'il y a ce retour aussi au spirituel, à la recherche du bien-être, tout ça. C'est pas idiot, parce que les gens se sentent bien qu'on les a amputés de toute une partie d'eux-mêmes.
Oui, mais enfin, le bien-être, c'est un peu le piège aussi.
Oui, c'est un peu le piège.
On en parlera.
Mais voilà. Donc moi, je conçois qu'un soin intégral d'une personne, c'est un soin qui va prendre compte de toutes les dimensions de la personne. Et je m'interdis pas, moi, quand je suis dans un centre, dans un soin clinique avec, quand le gars, il va me dire, par exemple, de toute façon, c'est Dieu qui a mis l'enfant sur ma route. Bon, bah là, on va travailler sur la vision qu'il a de Dieu et pourquoi Dieu. Je vais dire, mais bon, moi, alors première réaction que m'avait fait un de mes collègues et puis que j'aime bien reprendre comme intervention quand ça arrive, c'est je dis, bah tu sais, Dieu, il m'a mis sur ta route pour te dire que tu te trompes là. Bon, voilà, alors on va parler comme ça. Mais la spiritualité, la dimension spirituelle des êtres, ça peut être à la fois quelque chose qui peut être perverti, utilisé pour abuser, mais ça peut être aussi une ressource extraordinaire pour quelqu'un pour avancer plus vite vers un mieux vivre.
Oui, pour le meilleur et pour le pire.
Pour le meilleur et pour le pire, voilà. Alors quand c'est bien fait, parce que c'est toujours la même question, quand on sait pas faire, on peut être confronté à des manipulations. Mais par exemple, dans le milieu américain anglo-saxon, on a une discipline qui s'appelle le counseling spirituel, qui a été développée depuis des années, ça fait 40 ans qu'on y travaille, il y a des diplômes universitaires qui sont passés pour ça, donc c'est pas quelque chose qu'on fait à la légère, c'est même une division de la fameuse APA, l'Association des psychologues américains dont moi je fais partie, il y a toute une division sur le counseling spirituel et l'accompagnement des personnes dans leur spiritualité. Donc on conçoit tout à fait que les personnes ont besoin de ça pour guérir, ont besoin de ça pour aller mieux, et donc aussi pour les délinquants sexuels.
Alors rapport, effectivement, spiritualité, sexualité débridée ou non contrôlée, pour vous, effectivement, on peut jouer sur la spiritualité
pour
contrôler une sexualité qui peut être criminelle, on va dire.
Oui, je pense que ce qui est important, c'est que le délinquant sexuel, souvent, il est inscrit dans une toute puissance. Puisque Dieu n'a pas réussi non plus à l'arrêter, qui il est, et puis voilà. Alors quand c'est des prêtres, des fois on va même entendre « j'ai bien droit, j'ai fait tellement de sacrifices » et tout ça, il est dans une toute-puissance. Alors, il est lui dans la toute-puissance et il a un Dieu qui est impuissant à côté de lui, okay, qu'il s'est construit. Donc, dans le travail qu'on va faire, on va renverser la vapeur. La loi déjà, quand elle intervient par exemple dans le traitement judiciaire, va déjà casser un peu ça. Parce que le délinquant, il sort de sa toute puissance, parce que
réveille,
la loi,
oui.
Ça le réveille, la loi lui dit, non, la société ne tolère pas ce genre de choses. Ah, je peux pas faire tout ce que je veux. Ok. Et alors, si ce sont par exemple des catholiques ou autres, certains vont poser la question du pardon, de l'enfer, des choses comme ça. Alors moi, je dis, bon, ben voilà. Et ils vont me dire, mais est-ce que je vais brûler en enfer? J'ai dit, j'en sais rien, peut-être. J'ai dit, c'est dit dans l'évangile. Jésus, il dit, si tu fais du mal à un des petits, mets-toi une meule autour du cou, jeter dans la mer, parce que ça vaudra mieux que ce qui va t'arriver, de toute façon, autrement, là. Donc, j'ai dit, ça existe. Mais j'ai dit, il existe aussi une autre image de Dieu dans la Bible, qui est un Dieu miséricordieux. Donc, j'ai dit, il y a les deux, là. Mais moi, j'ai pas de réponse à te donner là-dessus, parce que qu'est-ce que je cherche à faire avec eux? C'est créer cet espace d'incertitude, qui peut permettre une rencontre ou une expérience spirituelle. Parce que c'est uniquement dans le lâcher-prise. Tant qu'ils sont dans la toute-puissance, rien va se passer là. Tant qu'ils contrôlent tout, qu'ils verrouillent tout, rien ne peut se passer. Donc tout l'objectif du travail spirituel avec ces gens-là, c'est de créer cet espace d'incertitude dans lequel ils vont être amenés à lâcher-prise. Parce que là, il peut y avoir quelque chose qui va se passer, selon les critères spirituels qui sont les leurs, leur tradition ou autre. Mais là, quelque chose peut se passer. Et c'est tout un enjeu.
L'enjeu, c'est élever spirituellement le délinquant sexuel.
Oui, mais pour qu'il arrive à comprendre. Alors, d'une, en faisant ça, on va travailler sur son empathie, parce que le problème, c'est que le délinquant sexuel, il a mis en sourdine son empathie pour pouvoir abuser. Donc, en lui faisant réexprimer et expérimenter l'empathie pour lui-même, il va découvrir que l'empathie, c'est quelque chose qui existe, et progressivement, il va découvrir qu'il peut avoir de l'empathie pour sa victime.
Il sort de son ego, c'est ça?
Oui, c'est tout à fait. Il se met, il expérimente. Qu'est-ce que c'est que d'être de l'autre côté de la barrière?
C'est quoi, Stéphane Joulin, la définition que vous donnez de la spiritualité? Vous avez manifestement du mal à la donner, cette définition, il y a beaucoup de pages.
Oui, parce que je voulais pas m'enfermer dans une définition unique, parce que je voulais que ce soit assez large et que personne puisse se retrouver.
C'est s'ouvrir aux autres, notamment.
Voilà, alors c'est une capacité et une aptitude de l'être humain à s'ouvrir à l'autre, quel qu'il soit, l'autre avec un petit a et l'autre avec un grand A. Donc c'est vraiment une aptitude, une capacité de l'être humain, c'est aussi une expérience, et ça s'inscrit dans différentes traditions. Donc je crois que ça, c'est important. C'est une ressource aussi extraordinaire pour une personne, c'est une source d'énergie, c'est une source de force, de référence, qui peut l'aider à aussi avoir une conduite juste dans la vie, dans le rapport aux autres.
Il peut y avoir une spiritualité religieuse, j'allais dire, et laïque.
Tout à fait, hein? tout à fait. La spiritualité n'est pas la prérogative du religieux, mais elle est intrinsèque au religieux. Un religieux sans spiritualité, c'est de l'idéologie.
Ouais, on voit okay. que ça peut mener, oui.
Voilà, on voit ce que ça peut mener, ouais. ok. On peut pas avoir des gens qui sont dans une proclamation d'une religion qui n'ont pas de spiritualité, ça mène aux pires horreurs.
Oui, okay. c'est la problématique en islam actuellement sûr, avec les djihadistes, par exemple.
Bien sûr. Ouais. À partir du moment où on déconnecte de cette expérience du divin, on va défendre Dieu, mais on l'expérimente pas. Donc, parce que on se satisfait d'un discours très limitant, très conservateur. Freud disait, de toute façon, le conservateur intellectuel et religieux, c'est une fainéantise de l'esprit. Et je crois qu'il avait tout à fait raison, parce que c'est vraiment
ça. La paresse intellectuelle.
Mais oui, c'est la paresse intellectuelle. Et puis, quand on se met en humilité à l'écoute du divin, quel qu'il soit, ou du spirituel, de la dimension spirituelle en soi, on va aller au contact de cette réalité qu'est l'autre. Et c'est ce que Ricoeur disait profondément. De toute façon, l'autre nous révèle notre existence. Et on ne peut passer que par là pour se découvrir.
Hein. Et d'ailleurs, le philosophe Paul Ricoeur de notre président Emmanuel Macron, qui apprécie beaucoup Paul Ricoeur défend une attitude, j'allais dire, très intéressante, hein, ou une position très intéressante, celle du choix, faire ou ne pas faire. Et vous vous appuyez sur Paul Ricoeur précisément dans l'accompagnement des délinquants sexuels. Alors, avec un mot d'ailleurs qui est un peu un mot peu usité, c'est le mot...
L'abolition.
L'abolition, c'est ça, voilà. L'abolition. C'est vouloir ou ne pas vouloir, c'est
tout
ça.
Fait.
Donc, choisir. La question du discernement qu'on peut aussi retrouver chez les jésuites.
Hein, voilà,
chez
tout
Ignace
à fait.
Loyola, oui.
Moi, je me suis rendu compte en travaillant en recherche avec beaucoup de cliniciens et de chercheurs au Canada que la question du choix d'abuser ou de nos choix de ne pas abuser ne se posait rarement. Parce que ils étaient beaucoup plus dans la dimension de qu'est-ce qui a amené à quelque chose et puis comment on va traiter, ok? Mais fondamentalement, ce qu'il faut voir, c'est si une personne choisit d'abuser, c'est qu'elle peut choisir de ne pas abuser. Autrement, il y a une espèce de déterminisme qui fait que la seule solution serait la castration, quoi, parce qu'il n'y aurait pas de possibilité de soins autrement.
Et pour vous, elle peut choisir de ne pas abuser?
Bien sûr, tout à fait. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on a, par exemple, pas mal de pédophiles qui sont abstinents. Ils ont cette pulsion-là en eux, mais ils ont choisi de ne pas abuser. En dépit de la pression libidinale qu'ils ont, ils ont choisi de ne pas abuser. Et ils savent, et c'est souffrance pour eux, mais ils le savent que c'est mauvais pour l'enfant, ils vont pas y aller. Okay? Donc, tout ce qu'on essaye de faire en thérapie, par exemple, c'est de revoir avec la personne qui est en soins, quels sont les mauvais choix qu'elle a fait, qui l'ont amené à ça. Donc, on va partir de qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce qu'elle est arrivée, et puis on va remonter à la base et on va redescendre avec eux en disant bon voilà, qu'est-ce que tu aurais pu faire comme autre choix à ce
en
moment-là.
En fait, vous faites le chemin à l'envers avec
voilà.
lui, c'est ça. Hein.
Voilà, on remonte dans la source où est-ce que la première fois, moi j'en pose souvent la question, quand est-ce que la première fois que tu as arrêté de regarder ta fille comme ta fille? Et puis, ils vont me dire, je m'en rappelle, c'était ce jour-là, elle sortait de la douche, sa serviette est tombée et d'un seul coup, j'ai vu son corps. Et des images sont venues dans ma tête. Ok, d'accord. Bon, alors qu'est-ce que tu as fait de ça après là? Alors on va redescendre avec eux. On va redescendre avec eux le long du chemin et on va voir tous les mauvais choix qu'ils ont faits, qui les ont amenés à abuser. Et on va voir qu'est-ce qu'ils auraient pu faire comme autre choix à ce moment-là pour apprendre qu'il y a d'autres chemins possibles que l'abus. Il faut leur apprendre ça. Et donc c'est la thérapie va servir à ça en grande partie, c'est de les apprendre à voir les dangers qui se peuvent se présenter à eux et quand ils sont confrontés à ces choix, qu'est-ce qu'ils ont comme autre possibilité que aller vers un comportement abusif.
Oui, parce que ce que vous décrivez bien dans votre livre, Stéphane Joulin, Combattre l'abus sexuel des enfants, c'est que ça ne se passe pas comme ça en quelques secondes. Souvent, il y a un cheminement.
Le comportement sexuel déviant qui va amener à un passage à l'acte, ça se fait rarement. Je dis pas que ça se fait pas.
Il y a le viol, bien sûr, qu'il y a le viol.
Oui. Mais je veux dire, que ce soit le viol ou les attouchements, ou que ce soit la forme d'abus, peu importe les gestes qui soient posés. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une progression qui va amener à l'abus.
Le père de famille, c'est pas en...
Ah, mais il s'est pas réveillé un matin en disant, tiens, je vais abuser de ma fille aujourd'hui.
Ouais.
Non. C'est qu'il y a quelque temps déjà qu'il regarde sa fille autrement que comme sa fille. Il la regarde comme un objet sexuel. Et ça a été dans le livre. D'ailleurs, il y a une victime qui a lu ce livre-là récemment et qui m'a dit, pour moi, la plus dure dans ton livre, ça a été de découvrir que j'ai été choisi. C'est ça qui est terrible. Mais le délinquant sexuel, le pédophile en particulier, il a une appétence spécifique pour un type d'enfant. Pas n'importe quel enfant. Il y en a certains qui préfèrent plus maigre, d'autres qui les préfèrent plus gras, d'autres qui préfèrent ainsi de suite. Je dirais quasiment comme un être humain adulte qui a une sexualité normale et qui préférera les blondes, les bruns, les brunes, les autres, et ainsi de suite. Le pédophile est pareil. Okay, il a un type d'enfant qu'il va préférer. Donc, il va pas tomber au hasard sur un enfant. Alors, des fois, c'est parce qu'il y a une question d'opportunité dans le sens que c'est ceux qu'il a accès. C'est le type d'enfant qu'il a accès. Par exemple, il a accès à ces enfants-là parce qu'ils sont sous sa garde à un moment. Donc, il va choisir dans ce groupe-là d'enfants. Mais autrement, il va y avoir un choix qui est fait par l'auteur de l'abus sur sa victime. Donc ça c'est terrible pour une victime de découvrir ça, parce que c'est plus supportable quelque part pour une victime de penser qu'on a été abusé sous le feu d'une pulsion sexuelle incompréhensible et incomprimable qu'on ne peut pas retenir, que le gars il a parce que la pulsion l'a pris, que de savoir que ça faisait déjà quelque temps que cet homme-là nous regardait ou cette femme-là nous regardait autrement que comme son enfant, quoi.
On terminera, Père Stéphane Joulin, avec les prêtres pédophiles qui ont donc été reconnus comme tels à l'Église, par l'Église, qui sont sortis même de leur état clérical. Hein, ça arrive assez souvent maintenant aux États-Unis. Que faire de ces prêtres ?
Ah, ça, c'est une vraie question, parce que bon, la tolérance zéro, hein, qui a été proclamée par le pape Benoît, par le pape François, c'est bien dans le discours, hein, mais c'est pas simple. Parce que concrètement, qu'est-ce qu'on fait de ces hommes-là ? On les rend à la vie civile ?
À 65 ans.
À 65 ans, sans retraite ou une petite retraite, sans contrôle, sans supervision, quels vont être les risques pour la société ? Mais c'est aussi compliqué de les garder, parce qu'on les met où ? Alors on va les mettre dans un monastère quelque part, mais les moines ils disent bon ça suffit là, faut pas trop nous en envoyer. Et puis moi je vois bien ça dans mon travail, quand j'ai par exemple un gars à placer que la communauté, la moyenne d'âge est de 88 ans, je peux pas leur demander de superviser un gars qui a 60 ans, qui a un comportement déviant, c'est pas possible. Donc on est face à des difficultés à chaque fois de savoir quoi en faire. Alors on peut très bien dire on renvoie, alors ça serait très facile. Mais est-ce que c'est la meilleure solution pour la société ? Est-ce qu'on va protéger les enfants de la société ? Alors par contre, on a un devoir et une obligation de s'assurer qu'ils sont plus en contact avec les mômes. Ça, c'est sûr. On peut pas avoir des affaires comme le père Prénat ou d'autres qu'on voit en France, où quelqu'un va être remis en pastorale dans une paroisse. C'est pas possible. S'il abusait d'un enfant, il ne va pas retourner en pastorale.
Alors, qu'est-ce qu'on fait ?
Eh ben, il faut qu'on lui trouve autre chose. Alors, des fois, ça peut être dans des fonctions administratives ou autres qui vont être loin des enfants, autres. Comme me disait un de mes profs, il y a moins d'abus sexuels dans les maisons de retraite que dans les maternelles, ok, sur les enfants, je veux dire. Donc, est-ce qu'il peut être aumônier d'une maison de retraite ou quelque chose comme ça ? Bon, faut voir. Maintenant, le pape, par exemple, avait réintégré un prêtre qui avait été sorti de l'état clérical, il l'a mis à une vie de prière et de pénitence, donc c'est-à-dire dans un monastère à prier en pénitence. Voilà, faut essayer de trouver des solutions, mais il n'y a pas de solution toute faite quoi à appliquer.
Là. Je me souviens du titre d'un livre dont d'ailleurs je n'ai jamais traité. Le titre c'était La miséricorde pour les prêtres aussi point d'interrogation. La miséricorde. Difficile d'en parler
oui,
quand
mais...
on pense aux enfants abusés et aux dégâts que ça fait.
Je pense qu'il faut pas confondre tout. Le pape Benoît, pour ça, avait été très clair. Il avait dit, le pardon ne remplacera pas la justice. Okay. Il faut pas que le pardon remplace la justice.
Et il a dit, haïr le péché, mais aimer le pécheur.
Exactement. C'est ça. Oui. Mais ça, c'est le vieux principe de théologie catholique. La tolérance zéro, elle doit être avec les comportements et les actes. Mais la personne reste une personne humaine. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Ben, ce qu'il faut, en priorité, c'est s'assurer qu'il ne soit pas un risque pour les enfants. Ça, c'est la priorité numéro un. Et après, de deux, c'est aider cette personne à avoir une vie sans comportement abusif. Et ça passe par le soin, ça passe par un milieu de vie qui va lui permettre de contrôler ses pulsions, contrôler ses appétences. Et c'est pas forcément en le mettant ou en le jetant à la rue que ça va régler les choses. Quoi.
Et donc pour l'Église, la miséricorde aussi.
Oui, la miséricorde est importante et elle doit être possible pour ces hommes et ces femmes qui abusent, mais elle ne doit pas faire l'impasse sur l'attention première qui doit être donnée aux victimes. Et ce sont toutes ces personnes qui doivent être d'abord au centre de toute démarche de miséricorde. Parce que si on ne part pas de l'expérience des victimes, la miséricorde qu'on va offrir aux délinquants ou autres n'aura aucun sens.
Combattre l'abus sexuel des enfants, c'est donc votre livre, Père Stéphane Joulin, qui est publié aux éditions Des Clés de Brouwer. Je vous remercie d'avoir été notre invité.
Merci Geneviève.
C'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delrue, Cécile Bonissi vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.